C'est gratuit.
France Inter. La voix est libre.
Il est 15h04 sur France Inter. La suite, c'est avec Daniel Mermet et une nouvelle diffusion de Là-bas, si j'y suis.
Qu'est-ce qui manque? C'est ça que je me dis tous les jours. Tous les jours, je me dis ça. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pour que ça soit aussi beau dehors que dans notre tête. Qu'est-ce qui manque? Je suis sûr qu'il manque pas grand-chose. Je me dis que en unissant nos efforts, on est un peu tous comme des mineurs avec au fond d'un trou là, avec une lampe torche sur la tête. Et puis on cherche l'issue quoi. Vers un autre monde, mais possible, pas juste réduit à l'imaginaire quoi. La première fois que je suis allé voir la dernière psy que j'ai fréquentée longuement. J'ai débarqué chez elle avec la photocopie d'un poème en prose de Baudelaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La chambre double ». Puis je lui ai posé comme ça, sur son bureau. J'ai dit « Voilà, c'est ça mon problème. C'est ça, c'est l'intérieur et l'extérieur. Quoi. Il y a un monde absolument magnifique et puis il y a les huissiers qui viennent frapper à la porte et qui viennent tout foutre en l'air. » Ouais, la souris, je sais pas ce qu'elle en a fait depuis, elle a dû le foutre à la poubelle. Je me suis aperçu qu'elle avait une BMW. Je me suis dit, putain, mais attends, fais pas ça pour avoir un jour une BMW, quoi. Fais pas le boulot pour ça, quoi. Ça m'a vachement déçu. Alors depuis, j'y vais plus. Je l'aimais bien, pourtant.
Oui, bonjour à vous. Je vous appelle parce que à l'époque, on cherche des logements vides un peu de partout, plus que des gens couchés à la rue. Je voulais vous signaler le 95 avenue Parmentier, l'ancienne clinique de Vinci, qui n'est plus en activité depuis à peine 6 mois, qui, à mon avis, a toujours des chambres avec les lits. Dans chaque chambre, il y a des douches, des toilettes. Il y a 8 étages et je pense qu'il y a une vingtaine de chambres par étage.
Bonjour, c'est Jean-Philippe dans Lyon. J'écoute la seconde émission consacrée à Hélène Keller, qui est toujours aussi passionnante. Et je veux juste une précision à apporter. Le film Miracle en Alabama n'est pas été réalisé par Sean Penn, mais par Arthur Penn. Une petite méprise de Daniel, involontaire, je suppose. En revanche, même si je ne suis ni très jeune ni très vieux, je me souviens, moi, l'avoir vu à la télévision quand j'étais enfant, avoir été fortement impressionné par ce personnage et par ce qui lui arrivait. Sur ce, bonne fête et bonne fin d'année, et encore merci. Au revoir.
Oui, c'est un message pour tous les taxis conventionnés avec la Sécurité sociale et qui font des transports de malades assis. Et pour tous ceux qui, un jour, pourraient avoir besoin ou ont déjà besoin d'être transportés pour des raisons médicales. La loi d'orientation de Sécurité sociale 2013 existe bien et son article 44 est la porte ouverte à un avenir sombre. Sous couvert de faire des économies sur les 3% du budget de la Sécurité sociale que nous représentons, certains députés ont même voté la loi sans connaître seulement ce pourcentage, le marché du transport de malades est en passe d'être libéralisé et soumis à appel d'offres. A priori, seuls de grands groupes structurés auront les moyens techniques pour répondre à des lots aussi complexes et aussi importants. Les interlocuteurs privilégiés des agences régionales de santé. Donc pour les hôpitaux, un seul numéro d'appel, un seul interlocuteur, c'est plus pratique. Il faut être conscient que le prestataire retenu fera probablement appel pour exécuter le marché à des sous-traitants spécialisés, que sont les taxis. Qu'est-ce qui va changer pour nous? Rien, sauf que nous travaillerons avec un intermédiaire qui sera placé entre les caisses de sécurité sociale et nous, qui aura négocié un tarif sur lequel il devra payer ses frais de structure. Et c'est nous, au bout de la chaîne de soins, qui paierons ces frais par le biais de fortes remises obligatoires si nous voulons être conventionnés avec ce donneur d'ordre. Un joli tour de passe-passe qui nous obligera à travailler à des prix qui feront de nous des esclaves modernes, sous-traitants et rémistes. Nous travaillerons et nous gagnerons moins, au profit d'une TGE, peut-être européenne, pourquoi pas. Il y a donc un mot d'ordre de grève nationale pour le 10 janvier à l'appel de l'intersyndicale.
Bonjour Monsieur Daniel Mermet, bonjour chers auditeurs de Là-bas si j'y suis. C'est Yves de Saint-Pierre de la Martinique. Eh bien, dans cette France d'outre-mer, il se passe des choses un peu spéciales. Toutes ces grandes entreprises qui traitent l'eau des communes, ces grandes entreprises françaises, se battent pour conquérir les marchés dans la France hexagonale. Eh bien, figurez-vous qu'en outre-mer, et plus particulièrement à la Martinique, elles s'entendent pour pratiquer un prix de vente du mètre cube d'eau défiant toute concurrence, payée évidemment par les pauvres consommateurs martiniquais. paraît-il que dans les autres départements d'outre-mer, c'est exactement la même chose. Parfois, ils sont un peu surpris quand il y a des révoltes, des manifestations, des grèves, etc. Eh bien, il y a deux poids, deux mesures entre la France hexagonale et la France d'outre-mer.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Un petit pan sur le bec pour le speaker qui a confondu Sean Penn et Arthur Penn. En tout cas, l'histoire d'Hélène Keller vous a plu, si bien qu'on continue aujourd'hui la seconde partie, les vies radicales d'Hélène Keller, devenue sourde et aveugle à l'âge de 19 mois et qui devint socialiste, féministe, militante, femme tout à fait extraordinaire. Surdit, cécité, eh bien c'est le mot qu'on va entendre aujourd'hui. C'est le cas en tout cas d'Annie Van Espen, qui dirige l'association française de surdit, cécité, ce qui était ce dont souffrait Hélène Keller qu'on retrouve aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au cours de cette dernière saison.
Petite histoire sur l'arrogance des riches. Un homme sort d'un magasin avec des gros paquets remplis de caviar, du saumon, foie gras, champagne, qu'il s'apprête à ranger dans le coffre de sa voiture. Il aperçoit un pauvre homme qui arrache des brindilles d'herbe qui poussent dans les interstices du parking. L'homme riche le regarde et lui demande ce qu'il fait là. « Je n'ai rien à manger, dit-il. » L'homme riche lui répond, « Venez chez nous, je vous invite. » Le pauvre, « C'est que je ne suis pas seul, j'ai une femme et des enfants. » Le riche, « Qu'à cela ne tienne, amenez-les tous. » Le pauvre, « Mais mes enfants sont grands et mariés et ont eux-mêmes des enfants, ça fera beaucoup de monde. » L'homme riche, « Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Dans mon jardin, l'herbe est haute d'au moins 20 cm. » Marie-Paul de Villejuif.
L'aveugle. Et quand il souleva la jupe, sa main trouva un vide dressé. Canulaire au marché de dupes, la belle était un Écossais. Salut.
25 ans. J'ai 25 ans, bientôt 26. Le temps qui flue et qui reflue, qui file et qui défile. Ma forêt est là, qui m'entoure, bien feuillue, bien conifère. Pourtant, il manque déjà 3 arbres dans ma forêt. Celui qui a toujours poussé tordu entre les pierres, qui n'a jamais eu de peau et trop tôt s'est pris un coup de tonnerre. Celui qui penchait vers le gouffre parce que le vertige de la mort était sa raison de vivre. Et celui qui poussait tout droit vers les hauteurs, que le vent de là-haut, paraît-il très fort, a soufflé traîtreusement. Il est dur à assumer le message de ceux qui meurent en nous disant de vivre. C'est là qu'on se rend compte que l'on a un passé. Pour toi, Daniel, c'est 68, la lutte et la vie en communauté. Pour nous, enfants des années 80 et 90, rescapés du XXe siècle, ça a toujours été du passé. À quoi bon se révolter, nous demandions-nous, quand sont déjà passés avant nous tant de rebelles, hippies, trotskistes, maoïstes, rockers, punks qui gueulaient No Future comme un slogan, le No Future qui était pour nous une triste constatation. Alors nous aussi, nous avons jonglé, joué, chanté, bu et fumé à outrance, mais les murs étaient déjà en ruine. Nos idoles les plus subversives, récupérées illico par l'industrie commerciale. La lutte pour nous a été avant tout contre nous-mêmes. Ne pas sombrer, ne pas rêver trop loin pour ne pas encaisser une désillusion de plus. Des enfants, non. L'avortement, le poids d'un choix que nous n'avions rien fait pour avoir, que d'autres s'étaient battus pour avoir. Les murs étaient déjà en ruine et derrière, le désert. La fausse liberté de pouvoir aller partout quand rien n'est nulle part. Mais l'espoir qu'on a mis tant de temps à découvrir et à construire est bien solide. Alors, merci les morts, merci la vie. Et rendez-vous à 3 heures après la Révolution. Salut.
Fin de jour exquise et sereine. C'est en Provence, à la Famée, dans l'air languide et parfumé, une odeur de foin coupé traîne. Le dernier rayon s'effaça à l'Occident, soudain plus pâle. Grelottant sous son petit châle, une chauve-souris passa. Le tronc d'un pin encore rougeoie, puis devient gris rapidement, comme succède en un moment la mélancolie à la joie. L'une grande, l'autre petite, deux étoiles soudain en lui, et tremble en attendant la nuit. On songe à Bérénice, à Tite. Tu dis, écoute, un rossignol. Sur le golfe, un reflet s'obstine. Pour obéir à la Martine, Le temps charmé suspend son vol.
Hier, j'ai fait un rêve. J'étais au hammam avec Jean-Marie Le Pen, dans une superbe djellaba rose fluo, et on mangeait un kebab en dévorant le Coran. À côté, il y avait Claude Guéant, qui lisait un vieux traité sur les civilisations surévaluées et sous-évoluées, comme l'UMP. Puis, enivrés par la dette grecque, nous ont rejoint Copé, Lemaire et Barouin, des bouteilles d'ouzo plein les poches. Alors ils ont chanté l'intégrale de Nanamous Koury, Guéant a parlé du seul truc qu'il connaissait de la civilisation grecque, la moussaka, on a dansé le sirtaki, bouffé des raisins de Corinthe privatisés, et deux heures plus tard, on a tous rejoint Sarko et Villepin à Euro Disney. Et là, vous auriez vu comme ils étaient beaux, ces sept petits nains dans les bras d'Angela Merkel, déguisés en Blanche-Neige, comme il était fier de son équipe, le petit Nicolas, c'était onusien. Mais ce n'était qu'un rêve de Pascal, de Lyon.
Sur les toits de Paris, le couvreur mate. Sur les toits de Paris, mate les jolies filles. La moindre silhouette, un peu déshabillée, lui fait dire « Mazette, je fais un beau métier ». C'était le poète poussif, accessoirement artisan maçon et admiratif de ses acrobates du bâtiment. Salut.
Le mot con pour désigner le sexe féminin apparaît au Moyen-Âge dans le roman de Renard et vient de Conil, le lapin. On imagine pourquoi. Ce n'est que deux siècles plus tard qu'apparaît le mot connard avec un seul N pour désigner une personne. Là, l'étymologie est du latin cuneus, coin. Et ce connard-là donnera, hélas, con. Alors il suffit de se dire que ce n'est pas le même mot et de l'entendre comme ça, comme par exemple saut, S-A-U-T, ou saut, S-O-T, ou saut, S-E-A-U. Et puis mesdames, rassurez-vous, nous ne confondrons jamais. Salut et merci à toi Daniel et à toute ton équipe pour ces émissions qui réchauffent le cœur. C'était Jean-Marc de Lyon.
Vous me connaissez ? Je suis une multinationale. J'ai des doigts dans tous les compotiers, automobiles, agroalimentaires, textiles et j'en passe. J'ai des milliers d'employés, partout. Et j'ai un système génial. Là où existe un code du travail, j'entretiens le chômage de masse pour maintenir des salaires ric-rac. Partout ailleurs, je fais fabriquer quasi pour rien. Et je gagne sur les deux tableaux. Mes salariés précaires et mes chômeurs du Nord ne peuvent s'offrir que des trucs pas chers, c'est-à-dire mes produits du Sud, enfin, ou de l'Est. Autant vous dire qu'avec une mécanique pareille, eh ben moi, je fais mon beurre. C'est Christine du Limousin.
Et vous savez quelle maladie vous avez? Vous savez, vous connaissez le nom de votre maladie? Votre maladie.
J'écris sur la paume de la main d'Annie.
Ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Char de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Char touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Inès Léraud, Hélène Keller et la surdicécité.
Hélène Keller, fille aînée du major Arthur Keller, est née en 1880 à Tuscumbia, comté de Colbert dans l'Alabama.
Alors Hélène Keller, c'est une petite fille qui a grandi de manière parfaitement normale jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ou 19 mois, une maladie la frappe et qu'elle devienne sourde aveugle.
Grâce à Anne Sullivan, elle avait imaginé un langage tactile de signes dessinés sur la paume de la main.
Une photo d'Hélène Keller qui serre la main de Winston Churchill.
Et puis comme c'était une petite fille très très intelligente, Elle va apprendre très vite, ensuite le braille, et elle ira à l'université et sera la première femme diplômée handicapée au monde.
Une photo d'Hélène Keller parlant à John Kennedy.
Beaucoup d'États-Unis aussi ne connaissent pas la vie politique d'Hélène Keller.
Hélène Keller serrant la main du président Eisenhower.
Oui, elle était membre active du National Women Party, le Parti national des femmes, qui était à la pointe de cette mobilisation dans les États-Unis.
Elle était sourde, aveugle et muette depuis ses 19 mois. Anne Sullivan et Hélène Keller. Après sa deuxième leçon, elle était capable de dire la phrase mot par mot.
I am not dumb now.
Je ne suis plus muette maintenant.
It is not blindness or deafness that brings me my death. Other, it is the attitude that puts men in not being able to speak normally.
La voix d'Hélène Keller. I am not dumb now. Je ne suis plus muette maintenant. Miracle, miracle formidable, miracle en Alabama, miracle dû en grande partie à celle qui a été sa préceptrice, son institutrice, Anne Mansfield Sullivan. Cette jeune éducatrice, lorsqu'elle rencontre Hélène Keller en 1887, donc Hélène Keller a 7 ans, et qui va réussir à inventer avec elle, à elles deux, elles vont inventer ce langage qui va permettre à Hélène Keller de sortir de sa nuit, de son obscurité. Non pas qu'elle va voir, mais qu'elle va comprendre. Et c'est ça les Lumières. Quand on dit le siècle des Lumières, c'est comprendre, c'est sentir, c'est être présent au monde. Ce qui nous touche évidemment au plus profond dans cette vie-là, celle d'Hélène Keller, c'est que vivre, c'est vivre un manque, c'est vivre des manques, vivre c'est manquer. Et c'est ça qui fait écho à ceux qui se considèrent comme non handicapés ou normaux. Et non, on est tous handicapés. Qui peut prétendre être normal? Qui a inventé cette normalité par rapport à une anormalité ou à une non-normalité? C'est une certaine moralité et peut-être aussi une immoralité ou une amoralité que produit l'esprit et que parfois le corps produit à travers ces handicaps. Vivre, c'est manquer, et compenser ce manque, c'est vivre aussi, c'est penser, c'est agir, c'est être présent, c'est lutter. Et Hélène Keller luttait. Voilà ce qui nous trouble et qui nous étonne et qui crée entre le différent et le normal cette étonnante résonance fraternelle. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, Hélène Keller, et la surdit cécité.
Le sculpteur aveugle qui palpe ton visage. Le sculpteur aveugle a des éclairs dans les yeux, ses mains douces comme des lézards tremblent et frôlent ta nuque. Ses mains douces comme du pain noir. Le sculpteur aveugle a des fourmis dans les mains qui ont trop vu de visages comme le mien, comme le tien.
Le chanteur aveugle a des mains lasses qui s'ennuient de ces formes fadasses.
Sandrine Schwartz, vous êtes linguiste, vous étudiez les moyens de communication chez les sourds aveugles et vous êtes aussi interprète pour sourds et pour sourds aveugles.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, je suis interprète en langue des signes et dans certaines de mes prestations, je me suis retrouvée à devoir interpréter pour des personnes sourdes aveugles et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à leurs moyens de communication, plus particulièrement la langue des signes tactile, qui est une variante de la langue des signes utilisée par les personnes sourdes, bienvoyantes, et qui est utilisée par des personnes qui sont sourdes aveugles, donc pour la comprendre. Elles posent leurs mains sur les mains de leur interlocuteur qui s'exprime en langue des signes.
Voilà ce que nous dit Sandrine Schwartz. Évidemment, ça nous intrigue. Comment peut-on, quand on est à la fois sourd et aveugle, communiquer par quels moyens? Eh bien, c'est ces moyens-là qui ont été développés avec Hélène Keller, avec Hans, grâce à la science et l'intuition et l'esprit d'invention d'Anne Sullivan, même s'il y a eu d'autres recherches qui ont consisté à traduire l'objet en signe, c'est-à-dire faire un signe pour un objet, jusqu'à ce qu'il y ait, par la suite, évidemment, un signe pour un objet conceptuel. Et oui, c'est l'invention de l'écriture, c'est la réinvention de l'écriture qui concerne évidemment toute l'histoire de l'humanité, de notre humanité, qui là se refait, se reproduit et se réinvente à chaque fois qu'on est en présence de ce handicap. Sandrine Schwartz.
Pour vous, linguiste qui étudiez les moyens de communication des sourds aveugles, Hélène Keller, c'est qui ?
Alors, Hélène Keller, c'est la sourde aveugle au sujet de laquelle des livres ont été écrits, des films ont été réalisés. Généralement, quand on parle d'une sourde aveugle, on ne connaît qu'elle. Alors que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des traces de personnes sourdes aveugles, mais quasiment partout, qui certes n'ont pas eu un doctorat, certes n'ont pas atteint la renommée internationale que Hélène Keller, mais ont eu des vies tout à fait trépidantes, passionnantes, ont fait preuve de stratégie pour rebondir par rapport à leur surdicécité, pour apprendre à communiquer avec leur entourage et avoir à vivre leur vie de personne. Mais oui, il est certain qu'Hélène Keller n'a pas été la première sourde aveugle instruite aux États-Unis. Il y en a eu au moins deux autres, qui étaient Laura Bridgman. Donc ça a été la première sourde aveugle, si on peut dire, instruite aux États-Unis. Elle est née en 1829. Et elle, c'est une maladie qui l'a rendue sourde aveugle à 2 ans. Et elle n'a pas perdu que l'audition et la vue. Elle a également perdu le goût et l'odorat. Et elle a été éduquée dans une école d'aveugles, par des lettres en relief qui lui ont été mises dans la main par l'alphabet dactylologique. C'est justement par la présence de Laura Bridgman dans l'école de Boston que Annie Sullivan, qui a été l'institutrice d'Hélène Keller, a appris l'alphabet dactylologique.
Donc toutes ces vies sont imbriquées de toute façon. De manière contemporaine à Hélène Keller, en France, il y a eu une éducation aussi pour les sourds aveugles. Donc il y avait tout un établissement qui les recevait de manière assez large. Et c'est dans cette institution qu'on a trouvé les premières traces de la présence d'une sourde aveugle. Dans un document, il est dit que les messes étaient dites oralement pour les aveugles, signées pour les sourdes, et qu'il y avait une sourde aveugle à qui une sourde retransmettait tout dans la main. Donc c'est la première trace. Mais après, il y a eu toute cette tradition d'éducation des sourdes aveugles, avec les célèbres sœurs Marie et Marthe Hurtin, qui, elles, étaient sourdes aveugles de naissance, qui ont été prises en charge toutes les deux dans cette école. Et donc Marie Hurtin, elle, a appris la langue des signes, a appris des alphabets en relief, connaissait la dactylologie, savait taper à la machine, savait prendre un crayon et écrire sur une ardoise en lettres visibles pour toute personne sachant lire. Il y a également une autre sourde aveugle qui s'appelle Anne-Marie Poyet, qui a eu aussi une destinée très triste. C'est-à-dire qu'elle a été prise en charge à peu près au même âge que toutes les sourdes aveugles qui arrivaient à l'époque, 7-10 ans, qui étaient d'une grande intelligence, qui a très très vite appris. Mais au bout de 6 ans d'enseignement, les parents ont décidé de la récupérer. Et là, pour elle, ça a été un dénuement communicationnel total. C'est-à-dire qu'elle n'avait personne à qui parler. Elle a trouvé un travail dans une usine où elle faisait des lacets toute la journée, des lacets et des rubans. Heureusement, il y a une de ses camarades de l'usine, voyante et entendante, qui a appris à communiquer un petit peu avec elle, qui lui servait un peu d'interprète. Mais c'est quelqu'un qui a périclité.
Quand on regarde l'histoire d'Hélène Keller, on a souvent l'impression que c'est une volonté extraordinaire. Est-ce qu'il faut toujours que ce soit ça, que ce soit la personne qui ait une volonté de s'adapter à son environnement ? Parce que l'environnement s'adapte peu à ces gens-là.
Ça, c'est clair qu'il faut que la personne ait une très très forte résilience, qu'elle ait également le milieu autour d'elle qui se mobilise. Et oui, concernant le milieu qui ne s'adapte pas, oui, mais ça, ce n'est pas uniquement malheureusement pour les sourds aveugles, rien que la situation des sourds, déjà en France. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées pour eux. Il y a des problèmes d'accès à l'information. Un exemple tout simple, la radio. De même, les émissions de radio, par exemple, quand elles sont après accessibles sur Internet, très rarement, elles sont accompagnées d'une transcription écrite. D'ailleurs, j'espère que pour cette émission, vous allez y penser, ça serait bien. Donc, si la personne sourde aveugle a à sa disposition le matériel adéquat lui permettant de transcrire ce qu'il y a sur un écran d'ordinateur, sur une plage tactile braille, pour elle, ça peut être accessible si on pense à rajouter des transcriptions. Mais ça, c'est tout ce qui est technique. Ce qui est également très important pour elle, c'est les aides humaines.
Mais vous, qui êtes traductrice justement pour sourds aveugles, les sourds aveugles font appel à vous pour quelles occasions ? Ils ont besoin de vous pour quelles occasions ?
Ils font appel à moi dans des situations de la vie de tous les jours. Alors, c'est-à-dire si elles ont besoin de se rendre chez le médecin, si elles ont besoin d'assister à une réunion parce que leur enfant entendant est à l'école et que ça ne se passe pas très bien et qu'on a besoin de rencontrer l'enseignante, ça peut avoir lieu au travail. C'est vraiment dans toutes les situations de communication de la vie de tous les jours. Mais quand je travaille avec des personnes sourdes aveugles, je n'utilise pas que la langue des signes comme moyen de communication. C'est-à-dire que bon, je connais le braille, je sais taper rapidement sur une machine à écrire ou sur un ordinateur. Je peux utiliser la dactylologie avec eux et éventuellement la reformulation orale, parce que certaines personnes sourdes très malvoyantes lisent encore sur les lèvres. Ou alors réarticuler très fort dans un micro HF. Parce que la surdicécité, ce n'est pas qu'une langue, ce n'est pas qu'un moyen de communication, c'est vraiment une multiplicité de moyens de communiquer avec l'entourage.
Je viens de sortir du RER, de la station Ménessy, et je me rends chez Annie Van Espen, qui est directrice de l'Association française des sourds aveugles. Elle est devenue sourde et aveugle toute petite à cause d'une maladie génétique. Et son mari est également sourd et aveugle. Et pour se rendre chez elle depuis le RER, il y a à peu près 20 minutes de marche à pied. Et elle doit faire toute cette marche avec son mari et leur chien guide, pour
pour pouvoir se déplacer. Avec Annie, on a communiqué par Internet, parce qu'elle peut lire les mails grâce à un clavier assistant braille. Un clavier qui est fait à partir de petites pointes qui se soulèvent ou se baissent pour former des lettres en braille. Et donc elle peut lire ou écrire des emails grâce à son assistant braille, on a communiqué comme ça. Mais on ne s'est rien dit sur la manière dont on allait communiquer au moment de notre rencontre. Je ne sais vraiment pas la manière dont on va s'y prendre. Je me suis juste dit que comme elle ne pouvait pas m'entendre quand j'allais arriver, ben j'allais lui prendre la main et puis la poser sur mon visage pour qu'elle sache aussi qu'elle peut me toucher, me prendre le visage si elle veut comprendre. Peut-être si elle veut comprendre ce que je dis. En tout cas, je sais que par mes mouvements de tête, elle pourra comprendre de cette manière si je dis oui ou non. Ça sera déjà ça.
Voilà, on va rencontrer Annie Van Espen, donc, qui est présidente de l'association française des sourds aveugles. Les sourds aveugles seraient entre 6000 et 6500 en France. Et donc on va... Voilà, on ne sait pas comment faire, mais Annie Van Espen, on l'espère, elle sait comment faire avec ceux qui ne savent pas comment faire. Au passage, je relève ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Schwartz, c'est que cette émission soit transcrite, évidemment, pour nos amis sourds. Donc, si parmi vous, il y a ce qu'on appelle des goldfinger, vous savez, ceux qui ont des doigts d'or et qui savent transcrire très rapidement, eh ben, n'hésitez pas à transcrire cette émission et à nous le faire savoir sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. On s'empressera de prendre la transcription ou bien vous pouvez l'adresser sur le site de l'émission en passant par le site de France Inter. Donc, on arrive chez Annie Van Espen.
Voilà, j'ai trouvé le 44, la petite porte bleue. Je vais frapper. Bonjour. C'est moi.
Bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Est-ce que ma chienne a envoyé parce que vous avez frappé à la porte, je pense.
Oui, j'ai frappé.
Parce que normalement, il faut sonner. On a un appareil spécial pour les sonneries avec des vibrations. Je vais vous montrer. Mettez votre main dessus.
Oh, quand ça sonne.
Ma chienne ne dit rien quand on sonne, mais elle dit quelque chose quand on frappe. C'est bien. Heureusement. Voilà, c'est mon mari. Il est complètement sourd. Tandis que moi, j'entends un petit peu.
Non.
Le mari et la femme parlent par signe.
C'est ça.
Non, ça va.
Oui, donc, je suis malentendante.
Oui.
Je communique avec les vibrations. C'est pour ça que je ne vois pas du tout.
Ah, mais vous, c'est pour ça que vous
mettez... Mon mari, c'est le contraire. Il n'entend rien et il voit un petit peu.
D'accord.
Alors, pour la communication, c'est un peu particulier. Il faut écrire dans la main.
D'accord, vous lui écrivez dans la main. Annie parle avec son mari par signe.
Oui. Vos parents, c'est moi, ma soeur, là-bas, pour m'entendre.
Elle lui fait des signes devant son œil qui voit. Contre sa main et devant son œil. Elle est en train d'étudier la place où on va s'asseoir.
C'est une interview avant de commencer l'enregistrement parce que est-ce que c'est une interview donc avec les questions si j'en parce que des fois si je ne comprends pas je vais devoir écrire dans la main en caractère imprimerie voilà. Parce que les caractères en minuscules, c'est difficile à comprendre.
Quelle place Hélène Keller, Hélène Keller, Hélène Keller, quelle place a-t-elle pour les sourds aveugles?
C'est pas facile.
Qu'est-ce que elle représente?
Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Hélène Keller représente pour nous une personnalité créée, célèbre par les films Miracle en Alabama que nous avons pu voir autrefois et aussi par ses ouvrages. Il y en a un que j'ai lu mais il y a très longtemps, j'ai un petit peu oublié. Mais c'est une personnalité vraiment formidable pour nous. Elle a beaucoup été motivée pour progresser, pour sortir du silence et de la nuit. C'est important pour nous. Bien sûr, elle n'est pas la seule, puisqu'en France, il y a eu aussi des cas d'exception. Mais je pense que l'histoire d'Hélène Keller peut encourager des personnes sur l'aveugle à persévérer dans leur étude, par exemple.
It is not blindness.
Hélène Keller. Ce n'est pas la cécité ni la surdité qui m'ont apporté mes heures les plus sombres. Mais la déception de ne pouvoir parler normalement. Longuement, j'ai pensé combien j'aurais pu mieux faire si j'avais su apprendre à parler normalement. Mais au sortir de cette triste expérience, j'ai pleinement compris l'importance des efforts humains, des ambitions et la capacité infinie de l'espoir.
Et vous, vous ?
Oui. Vous ?
À quel âge vous avez perdu la vue?
Alors, quand je suis née, on ne sait pas vraiment si je suis née avec une déficience visuelle et auditive. En tout cas, pour les 18 premiers mois de ma vie, je paraissais entendre et me paraissait voir. À 18 mois, j'avais commencé à dire deux mots importants puisqu'il s'agit de la désignation de mes parents. Et tout d'un coup, je n'ai plus parlé du tout. C'est à ce moment-là que mes parents se sont posé des questions. Pourquoi j'avais arrêté de parler? Pourquoi je ne parlais plus? Il faut imaginer l'angoisse des parents vis-à-vis d'une telle situation. Et autre chose, mon comportement a complètement changé à ce moment. Avant mes 18 mois, j'étais une petite fille très gaie. Et au moment du changement, je n'étais plus la même. J'étais devenue triste. Je m'éloignais des autres enfants. Donc, ils ont fait part de leur inquiétude au médecin. À l'époque, il n'y avait rien pour pouvoir savoir ou diagnostiquer. La surdicécité est un problème très mal connu. Encore maintenant, il arrive qu'il y ait des problèmes de diagnostic. Il a fallu attendre mes 5 ans et demi, 6 ans, pour savoir exactement ce que j'avais. Entre-temps, je n'avais pas repris la parole. Et on avait découvert mes problèmes visuels. C'est grâce à mon institutrice que nous avons découvert mon problème visuel. J'allais à l'école dès l'âge de 4 ans. Et mon institutrice était très intriguée par le fait que je ne traçais pas les traits demandés horizontalement, mais obliquement. Et c'est là que s'est posée la question de savoir si je voyais bien ou pas. Et qu'elle a conseillé à mes parents la consultation d'un opticien. On s'est aperçu que mon œil gauche ne voyait pas du tout et que mon œil droit avait environ un dixième. J'ai perdu la vue vers l'âge de 25 ans, progressivement à partir de l'âge de 18 ans. Pour ce qui est de la surdité, mes parents avaient constaté que je ne me comportais plus de la même manière. Au son du klaxon effectué par mon père lorsqu'il rentrait de son travail. Donc, beaucoup de choses les intriguaient. Ils ont tellement insisté auprès du médecin qu'il a frappé dans ses mains, derrière ma tête. Et voyant que je n'avais aucune réaction, il a pensé que j'étais complètement sourde, non appareillable. Mes parents m'ont emmené voir un ORL, et c'est là qu'on a vraiment su mon handicap auditif. J'étais malentendante, sévère, mais je pouvais être appareillée, mais pas opérable. Donc, j'ai été appareillée à partir de l'âge de 6 ans et demi, lorsque je suis partie à Paris pour être scolarisée. Parce qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, nous habitions dans le Jura. Il n'y avait rien à l'époque pour les malentendants là-bas. Et j'ai appris à parler à ce moment-là.
Il a fallu plus de 4 ans pour connaître votre problème. Il a fallu attendre 4 ans.
Plus, oui. Il a fallu attendre plus de 4 ans. Donc, il a fallu attendre bien des années. Mes parents ont été bien angoissés pendant toute cette période, se posant des questions. Mais il faut dire aussi que je trompais l'impression des personnes parce que j'étais une petite fille très observatrice. Je faisais attention à tout ce qui se passait autour de moi. Donc, ça n'était pas facile de comprendre pour eux. Par exemple, je cite, le médecin était venu voir un de mes frères qui était malade. Il a ouvert sa bouche. Il a demandé à un autre frère d'aller chercher une petite cuillère. Et c'est moi qui suis allée la chercher. Ce qui a trompé le médecin. Il a dit à mes parents, « Vous voyez, elle entend bien, votre petite fille. » Comme j'étais très observatrice, j'avais compris.
Votre histoire ressemble à celle d'Hélène Keller.
Oui, elle ressemble un peu, mais je voyais un petit peu. Hélène Keller ne voyait pas du tout. Donc, elle était quand même plus handicapée. Donc, cela devait être beaucoup plus dur pour elle. Mais je confirme, vu le comportement que j'ai eu quand j'étais petite, après l'âge de 18 mois, il faut penser que l'on se retrouve effectivement dans un monde noir, un monde silencieux, obscur, même si je voyais un petit peu. Donc on peut imaginer ce qu'était la vie d'Hélène Keller quand elle était petite. Ce sera vraiment très impressionnant pour moi aussi. Donc, moi, j'ai ma propre histoire. J'ai quand même eu un petit peu plus de chance de ce côté-là. Mais Hélène Keller a eu une énorme chance d'avoir Anne Sullivan. Cette personne est vraiment fantastique, pleine d'énergie, de détermination. C'est grâce à elle qu'Hélène Keller est devenue ce qu'elle était. Et en plus, une autre chance, c'est qu'elle a toujours été accompagnée par une personne dévouée pour voyager, pour se rendre partout. Ce qui est un peu difficile maintenant pour nous, ce n'est pas le cas.
Tu vis dans un silence éternel et muet. Je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un balai. Un émouvant balai que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes. Et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon amour, pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Mon amour.
Vous savez quelle maladie ? Vous connaissez le nom de votre maladie ? Votre maladie. Ah. Mmh.
Oh, ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Char de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Char touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Et il y a combien de sourds aveugles en France ? Combien de sourds aveugles en France ?
En France, nous pouvons compter environ 6 000 à 6500 personnes sourdes aveugles. J'ai commencé à fréquenter des personnes sourdes aveugles à partir de 1985. Auparavant, mes parents et moi, nous ne connaissions pas l'existence d'autres personnes sourdes aveugles. Je me croyais toute seule en France pour être handicapée de surnécessité. J'ai rencontré mon mari en 1985. Nous nous sommes mariés. Par la suite, il m'a un peu appris la langue des signes qu'il a appris au cours de sa rééducation à côté de Poitiers. Nous ne connaissons pas la totalité de la langue des signes, c'est ça le problème. Mais je signale qu'il y a une chose qui est vraiment bien pour nous, c'est le courrier électronique. Ça, c'est un excellent moyen de communication. Encore faut-il que tous aient un courriel et également qu'ils soient motivés. Parce que souvent, quand on écrit, par exemple, à une administration, souvent, on nous dit de les rappeler au téléphone. Donc, c'est difficile. Ils ne comprennent donc pas forcément ce qu'est la surdicité, même si on l'a signalé. C'est pas facile. Hein.
L'association des sourds aveugles, depuis quand elle est fondée ?
L'association des sourds aveugles ?
Depuis quand elle est fondée ? Quelle est la date de création ?
Alors, l'Association française de la surdicité, qui est une association de sourds aveugles, a été créée en fin août 2009. C'est une association qui est uniquement dirigée par des personnes sourdes aveugles. Il y a un conseil d'administration et un bureau, donc il y a des réunions entre sourds aveugles pour prendre des décisions. Par exemple, cette année, nous avons décidé la création d'un logo pour identifier l'association. Et il vient d'être voté après plusieurs mois de débats entre personnes sourdes aveugles par courrier électronique.
Bravo!
C'est beaucoup de travail, hein, l'association comme ça. Parce que je fais beaucoup de choses maintenant à l'association. C'est ma vocation. Ouais. Ça, c'est ma vocation. Je l'ai trouvé ça, progressivement.
Vous avez quel âge?
Comment?
Quel âge vous avez?
Quel âge? Oh, je suis plus très jeune, mais je suis pas encore vieille. J'ai 52 ans. Non. Oh non. Oh.
C'était un reportage d'Inès Hiro. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Élodie Royer et Vincent Godard. Cette émission a été réalisée par Bertrand Chometon, Franck Adereur et Chloé Sanchez. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Audrey Morellato.
Pas de surprise attendue sur les chiffres du chômage. Pôle emploi a publié à 18h les statistiques pour le mois de novembre. Novembre devrait donc être le 19e mois de hausse consécutive. Le nombre de demandeurs d'emploi devrait rester au-dessus de la barre symbolique des 3 millions de personnes qui n'ont pas du tout travaillé. Les moins de 25 ans et les plus de 50 ans sont les plus touchés. François Hollande espère faire redescendre la courbe d'ici fin 2013. 2013 qu'il a baptisé année de la grande bataille pour l'emploi. 4 morts en moins de 24 heures dans les montagnes françaises. Un skieur de 14 ans s'est tué hier en percutant un arbre à Saint-Pierre-del-Folcat dans les Pyrénées-Orientales. Au Tourmalet, dans les Hautes-Pyrénées, c'est un Espagnol de 26 ans qui a perdu la vie en tentant un saut périlleux. Dans les Hautes-Alpes, sur le massif du Queyras, un snowboarder de 37 ans a été emporté par une avalanche. Et puis en Isère, c'est un base jumper de 26 ans qui est mort après une chute au pied des falaises de Choranche. Il n'a pas ouvert sa voile à temps. La France frappée par la grippe, le seuil épidémique a été atteint. 230 000 cas recensés la semaine dernière, alors que les Français sont toujours réticents à la vaccination. Seulement 55% des plus de 60 ans ont accepté la petite piqûre l'an dernier. Paris condamne l'avancée des rebelles en Centrafrique sans pour autant envisager de soutien militaire au pouvoir en place. François Hollande l'a affirmé ce matin, les 200 soldats sur place se contenteront de protéger les ressortissants français malgré l'appel du président François Bozizé. Hier, l'ambassade de France à Bangui, la capitale, a été caillassée par des manifestants qui dénonçaient justement l'inaction de Paris. L'opposition syrienne ne pose qu'une seule condition ferme aux négociations. Elle n'acceptera pas que le président Bachar al-Assad et ses proches participent au prochain gouvernement. En dehors de cette exigence, la coalition nationale syrienne se dit prête à discuter de tout. Lakhdar Brahimi, l'envoyé spécial des Nations Unies, enchaîne lui les entretiens. Il a rencontré Bachar al-Assad, puis une délégation d'opposants en Syrie en début de semaine. Il doit se rendre en Russie ce week-end. Le conflit dure depuis 21 mois maintenant. Il aurait fait 44 000 morts. Le nouveau Premier ministre malien Diango Sissoko souhaite une intervention militaire africaine le plus rapidement possible. Depuis juin, le nord du Mali est occupé par des groupes armés, dont ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la semaine dernière le déploiement d'une force internationale, mais sans fixer de calendrier précis. Des vacances raccourcies pour Barack Obama. Le président des États-Unis est rentré à Washington. Républicains et démocrates doivent en effet trouver un accord sur le plan de réduction du déficit public. S'ils n'y arrivent pas d'ici le 1er janvier, des hausses d'impôts se mettront alors automatiquement en place. Il est 16h03 sur France Inter. On continue en musique avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Oui, bonjour et merci Audrey Morellato. Carrefour de l'Odéon. Bonjour
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Pour commencer, un auteur fort peu connu, François-René Geboer, bassoniste et compositeur né à Versailles. Le 15 mai 1773, il a commencé avec son frère, il a reçu des leçons d'un grand bassoniste et compositeur de Vienne, et à 15 ans, il est entré à la garde suisse de Versailles, et puis il est parti à la garde nationale de Paris. Bon, il a été évidemment un peu bousculé par les événements politiques, mais toujours bassoniste, et heureusement aussi compositeur. Voici donc un rondo tiré du quintet en ut mineur de François-René Geboer. Le rondo d'un quintet en ut mineur de François-René Geboer, interprété par l'ensemble Concert Impromptu. En voici un qui n'est pas célèbre non plus, mais un peu plus connu quand même, c'est Ferdinand Ries qui était un proche de Beethoven, qui a été son élève, qui a été son secrétaire aussi. Alors il naît à Bonn au mois de novembre 1784, c'est-à-dire que le terrible Beethoven était venu au monde 14 ans auparavant. Alors évidemment, c'était très difficile de s'imposer aux côtés de ce colosse musical, et il fallait être du calibre de Franz Schubert pour se défaire d'une emprise aussi forte. Alors c'est vrai que Ries, qui est mort d'ailleurs en 1838 à Francfort, n'a pas eu vraiment cette force-là. Mais il était quand même très doué, doté d'une personnalité musicale affirmée. Et on peut quand même s'intéresser à son œuvre, même si elle n'est pas du même niveau que celle du grand Ludwig. Voici par exemple un allegro à l'espagnol tiré d'un quatuor en do mineur, comme la pièce précédente. C'est d'ailleurs pour flûte, violon, alto et violoncelle. Thank you.